Place Info.
Bonsoir, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition des Informés avec au programme ce vendredi soir le taux de reproduction du virus qui est en hausse dans plusieurs régions françaises. Faut-il s'en inquiéter? Faut-il apporter d'autres réponses? On va s'interroger sur la stratégie de la France alors qu'on voit que certains de nos voisins, notamment l'Espagne, prennent des mesures plus drastiques. Jean Castex, lui, donne des gages aux partenaires sociaux en reportant l'assurance chômage, les négociations sur les retraites. Alors est-ce que c'est reporté pour mieux enterrer? On va se poser la question tout à l'heure. Et puis on parlera de ces retrouvailles à 750 milliards d'euros. Les 27 sont à Bruxelles pour discuter du grand plan de relance européen. Vont-ils trouver un compromis? N'est-ce pas l'heure de vérité aussi pour une Europe qui n'a pas vraiment montré un visage uni pendant la crise? On verra ce qu'en disent nos informés. Je vais d'ailleurs les présenter tout de suite, les saluer par la même occasion. Étienne Girard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef société à l'hebdomadaire Marianne. À vos côtés, Patrick Martin-Jeunier, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Enseignant à Sciences Po, spécialiste notamment des questions européennes. Pascal Pogam, bonsoir à vous.
Bonsoir,
directeur
Céline.
Adjoint de la rédaction de l'Express. Et avec nous également, via les ondes, Bruno Cotresse, bonsoir. Vous êtes politologue, bonsoir. Chercheur au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Bienvenue à tous les quatre. C'est parti pour une heure de débat. Alors cela fait plusieurs jours maintenant que les autorités sanitaires multiplient les appels à la vigilance devant une possible reprise de l'épidémie et les indicateurs publiés aujourd'hui par le ministère de la Santé vont dans le même sens. Le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire le nombre de personnes que chaque malade peut contaminer, est en hausse dans certaines régions de métropole, notamment en Bretagne. Après quelques hésitations de la part de l'exécutif, le port du masque va devenir obligatoire la semaine prochaine dans les lieux publics fermés, vous le savez, mais la grande distribution n'a pas souhaité attendre le décret, ce sera dès lundi, dans les allées de nos supermarchés, dit Jacques Cressel sur France Info. Écoutez, c'est le directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution.
C'est une obligation qui nous paraît essentielle pour protéger à la fois nos clients comme nos collaborateurs. On nous annonce effectivement un texte en début de semaine, mais nous avons choisi de nous organiser de manière responsable en choisissant une date unique pour tous les magasins et qui soit la plus proche possible. Et donc nous avons décidé que à partir de lundi matin, ce qui correspond en gros à ce que le gouvernement avait annoncé, il y aura une obligation d'avoir un masque pour tous les clients dans l'ensemble des magasins des grandes surfaces alimentaires en France.
Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne chose que certains secteurs prennent ce genre d'initiative ou bien est-ce que ça met en lumière aussi le retard à l'allumage du gouvernement, en tout cas comme le disent certains, Étienne Girard?
C'est une bonne chose, c'est nécessaire évidemment. On voit que la deuxième vague affleure, 2,62 de R en Bretagne.
Donc le taux de reproduction du virus.
Voilà, on reconfine un peu partout dans les pays européens frontaliers, en Espagne, en Allemagne, en Italie dans un village, au Royaume-Uni, même si ce n'est pas un pays frontalier. Donc, on sent qu'il y a, un sujet. La question, est-ce que le gouvernement a été trop attentiste sur le dossier? Pas forcément. Alors, il y a quand même eu des choses un peu décalées. Quand le Premier ministre Jean Castex, avant-hier, précise que il va rendre le port du masque dans les lieux publics clos obligatoire à très brève échéance et que lui-même le dit alors qu'il ne porte pas de masque dans un lieu public clos, c'est un symbole.
C'est un paradoxe que vous avez relevé en tout cas.
Voilà, c'est un symbole qu'on n'est pas tout à fait au niveau des institutions dans une prise de conscience totale de l'urgence du moment. Cela dit, si c'est fait lundi, je pense qu'il n'y aura pas matière à une polémique outrancière. Le gouvernement a les indicateurs et sur le dossier assez vigilant. Ils ont les indicateurs sur le nombre d'admissions aux urgences pour Covid, ce nombre est en hausse, notamment en région parisienne. Mais alors, donc on peut considérer que le gouvernement
justement,
prend les choses en main.
Sur ces chiffres que vous rappelez, est-ce que le gouvernement a été attentiste, comme certains l'ont dit, Patrick Martin-Jeunier?
Je ne sais pas si on peut parler d'attentisme, mais vous savez, on ne peut pas tout attendre d'un gouvernement, on ne peut pas tout attendre d'une police. Lorsque je regarde en Europe ce qui se passe, eh bien partout, effectivement, comme en Espagne, il y a quelques jours à Majorque, ça fait scandale en Allemagne, il y a beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Allemands qui vont à Majorque faire la fête, dans des espaces de nuit de fête, etc. Et ces gens-là ne respectaient aucune mesure de protection. Donc il y a une responsabilité des citoyens. Alors évidemment, les politiques ont une responsabilité particulière. Lorsque j'ai regardé la semaine dernière les passations de pouvoir ou les ministres qui s'embrassaient, évidemment on avait oublié qu'il y avait des règles de sécurité, donc il faut faire très attention. Je crois qu'aujourd'hui néanmoins, nulle part en Europe, malgré un taux de reproduction qui augmente, on ne voit de confinement généralisé. Ce sont des confinements locaux à Leicester en Angleterre, en Allemagne également, dans un canton en Rhénanie du Nord-Westphalie, 600 000 personnes reconfinées. Mais ce n'est jamais un reconfinement total. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui, en termes économique, de tout fermer. Donc aujourd'hui, ce qui s'impose, et c'est des procédures de respect des distanciations, porter le masque, et c'est de la responsabilité de chacun. Et le Premier ministre l'a rappelé, lui qui était monsieur déconfinement avant, si jamais il y avait une dérive, eh bien nous pourrions retrouver des mesures généralisées.
Mais justement, en France, on ne mise pratiquement que sur le masque. Est-ce que, bon, les petites hésitations qu'on a senties de la part de l'exécutif ces derniers jours ont montré que, bon, si c'est la seule stratégie, il faut peut-être la mener de façon plus décidée, plus déterminée. En tout cas, c'est ce qu'on dit certains, Pascal Pogam.
Alors, s'agissant de l'impair, de dépassation de pouvoir, on a mis ça sur le compte de l'émotion hein, du moment. Je crois que depuis, ils font bien attention à chacune de leurs sorties. Les distances sont bien respectées et les masques sont portés. Le masque, je dirais, c'est quand même essentiel. Si tout le monde prenait cette habitude, le portait en toutes circonstances, on ferait déjà un progrès assez spectaculaire. Moi, ce que je constate dans la vie de tous les jours, c'est qu'en dehors du métro, où très majoritairement les passagers portent leur masque, effectivement, dans la vie quotidienne, que ce soit au restaurant, dans la rue, dans les magasins, on sent bien que ce réflexe-là commence à être perdu. Et si la petite piqûre de rappel que nous sommes en train de vivre peut inciter tout le monde à reprendre conscience du danger qui nous guette, je pense que ça va dans le bon sens.
Bruno Cotterêts, quel regard vous portez, vous, sur ce qui vient de se passer, sur les décisions prises ?
C'est plutôt de bonnes décisions quand même d'accélérer cette décision et de la mettre au 20 juillet plutôt qu'au 1er août. Effectivement, comme tout le monde, on a tous constaté un relâchement, peut-être moins encore dans le domaine du masque que dans le domaine des distanciations physiques, où là vraiment, je crois que les uns et les autres, on a tous fait l'expérience d'un considérable relâchement sur la question de la distanciation physique, dans les files d'attente, dans les magasins. Donc, il faut bien voir en même temps que pendant une séquence d'une grosse quinzaine de jours, le gouvernement, le pouvoir a plutôt été dans une autre narration qui était celle de l'arrivée de Jean Castex, qui était celle du plan de relance, et on voit qu'effectivement on essaie de se sortir. Hein,
au Donc plan la protection sanitaire a pâti du remaniement, c'est ce que vous dites.
Voilà, et bien sûr que là, il faut en remettre une couche, l'information et le rappel des consignes, tout dépend des lieux, dans les transports public, dans les trains, elle est très rappelée quand même, elle est très respectée et très rappelée à la SNCF en particulier. On ne peut pas aujourd'hui rentrer dans une gare ou dans un wagon de train sans porter le masque et sans se le voir rappeler à de très nombreuses reprises. Donc globalement, il est plutôt bon effectivement que ça ait été accéléré et qu'on rappelle bien les règles du jeu. Mais il n'y a pas que le masque, il y a effectivement la question de la distanciation physique, de ces fameux gestes barrières.
On va continuer le débat dans un instant, on s'interrompt le temps du Fil Info à 20h11, on a un peu de retard. C'est avec Valentine Letesse.
C'est une obligation qui nous paraît essentielle pour protéger nos clients comme nos collaborateurs. Explication sur France Info de la Fédération des commerces et de la distribution. Dès lundi, dans tous les supermarchés, le port du masque sera désormais obligatoire en France. Des mesures alors qu'une reprise épidémique du Covid-19 frémit. Le taux de reproduction du virus, le fameux R0, repart à la hausse et inquiète en région PACA, en Bretagne ou encore en Île-de-France. Alors pour faire face à l'épidémie, les 27 sont réunis à Bruxelles depuis ce matin, et ce pour la première fois physiquement depuis le début de la crise. Ils tentent de trouver un accord sur un plan de relance à 750 milliards d'euros. En France, l'éducation nationale se prépare à l'hypothèse d'une rentrée sous le signe du Covid-19. Le ministère a mis en ligne un plan de continuité pédagogique pour aider directeurs d'école et professeurs à s'organiser dès la rentrée dans l'hypothèse d'une reprise de l'épidémie. Dans ce contexte, priorité à l'emploi, patronat et syndicats sont conquis. la réunion avec les partenaires sociaux à Matignon ce matin signe un premier succès pour Jean Castex en acceptant de repousser les discussions sur la réforme des retraites et l'application de la réforme du chômage à début 2021. Les sujets qui fâchent sont évités, commente le patron du MEDEF.
France Info. Et tout est plus clair.
20h-21h, les informés. Céline Asselot.
Et au cœur du débat des informés ce soir, la stratégie de la France face à une reprise possible de l'épidémie. On a vu qu'en France, la question de ce port du masque nous occupe depuis plusieurs jours. Faut-il l'imposer? Si oui, à quelle date et dans quel type de lieu? Alors que chez nos voisins, on en parlait, on prend des mesures plus drastiques. On n'hésite pas à faire du reconfinement dans certaines villes, dans certaines régions. Est-ce qu'on est réticent en France à des mesures plus sévères? Est-ce qu'on veut à tout prix éviter cela, en tout cas, Pascal Pogam?
Alors moi, il y a un point qui me surprend en particulier, pour lequel c'est vrai qu'on a envie de poser des questions au gouvernement. C'est l'entrée des étrangers ou des voyageurs qui viennent de zones... Bien sûr. De zones à risque ou pas, mais qui viennent de zones extra-européennes en tout cas. En France, dans les aéroports, les tests ne sont pas obligatoires, ne sont pas systématiques. Il n'y a pas de quatorzaine, contrairement à ce qui se passe dans certains pays européens. Dans un pays comme l'Irlande, par exemple, si vous entrez demain en Irlande, vous allez être, pendant 14 jours, contraint de rester dans un endroit clos, en tout cas le même endroit, pendant 14 jours, sans circuler dans le pays.
Les tests vont être systématisés dans les aéroports pour les voyageurs arrivant de zones classées rouges, c'est ce que Gabriel Attal l'avait annoncé le week-end dernier.
Classé rouge, mais sauf erreur de ma part, dans des pays comme l'Algérie, le Maroc, ce sont des pays dans lesquels les tests, en provenance desquels les tests ne sont pas systématisés. Et ce que nous disent les médecins aujourd'hui, notamment en Île-de-France, c'est qu'ils voient un nombre assez spectaculaire de malades en provenance de ces pays. Et chaque jour, depuis une dizaine de jours, la progression, semble-t-il, est assez évidente. Et il y a là un problème. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement refuse de prendre cette responsabilité-là. Ça ne me paraît pas être une mesure très compliquée à mettre en œuvre.
Comment vous expliquez, Patrick Martin-Jeunier, la différence justement de traitement entre la France et ses voisins européens? Est-ce qu'on peut avoir une explication?
Je crois qu'il y a un problème de moyens, d'abord de tester massivement les gens en Allemagne. Je peux vous dire que dès lors qu'il y a un cluster, on installe des hôpitaux de campagne, des tentes, et tout le monde se met à être testé. Voilà. Et mon frère qui est également en Chine, il est hors de question pour les Français, je le dis, de sortir de Chine, parce que s'ils sortent de Chine, ils reviennent, ils sont mis en quarantaine, effectivement, en rentrant, à supposer qu'ils soient autorisés à rentrer en Chine. Donc il y a des mesures extrêmement drastiques. En France, il y a sans doute une réticence, parce qu'on a peut-être peur des conséquences à la fois psychologique, il y a eu des conséquences psychologiques, économiques de ce confinement généralisé, et peut-être qu'y a-t-il un manque de moyens pour tester massivement, car vous parliez on parle de la Mayenne en ce moment, ça veut dire qu'il faudrait 300 à 400 000 tests, c'est à peu près le nombre de tests qu'on avait annoncé pour la France pour une semaine, donc il y a sans doute un manque de moyens qui fait qu'on est réticent pour ce genre de situation. Mais d'un autre côté, moi j'écoutais des infectiologues cet après-midi qui, par exemple en Île-de-France, nous disaient qu'il n'y avait aucune urgence et qu'il y avait énormément de places dans les hôpitaux. Donc, il faut être extrêmement prudent, ne pas s'affoler. Certes, il peut y avoir des difficultés, mais s'il y avait vraiment une seconde vague, les hôpitaux seraient pleins, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Île-de-France. J'ai écouté un infectiologue d'un hôpital d'Île-de-France cet après-midi qui dit non, il y a des lits libres partout. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter les consignes. Ça, c'est très, très important.
Pascal Bogam, vous vouliez ajouter quelque chose?
Ce que vous dites est très important parce qu'effectivement, on se focalise sur le taux de reproduction aujourd'hui, mais parmi les indicateurs surveillés comme le lait sur le feu par les pouvoirs publics, il y a le taux d'occupation des lits en réanimation, il y a aussi le taux, ce qu'on appelle le taux d'incidence, qui est le nombre de tests réalisés par 100 000 habitants. Ces indicateurs-là, pour l'instant, sauf dans le cas de la Mayenne, ces indicateurs-là ne sont pas préoccupants pour le moment.
Est-ce que ça veut dire qu'on a tendance peut-être à se focaliser sur les indicateurs qui sont les plus inquiétants, de peur de passer à côté de quelque chose, Étienne Girard?
Absolument, et d'ailleurs ça devrait nous préoccuper parce que le coronavirus est arrivé en France en partie de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on se préoccupait des indicateurs les plus inquiétants, le nombre de personnes en réanimation par exemple, et on n'a pas vu forcément la vague arriver en France de façon très rapide. Trois semaines avant le confinement, les indicateurs n'indiquaient pas que l'épidémie allait prendre une telle ampleur en France. Ce sujet des gens qui arrivent, des étrangers ou des personnes qui arrivent de l'étranger, me semble être un sujet majeur et le principal point d'interrogation actuellement, parce que c'est exactement la même erreur qu'on a faite fin janvier. Agnès Buzyn expliquait qu'il n'y avait aucun problème pour les Français qui revenaient de Chine. parce que des affichettes étaient disposées à Roissy en expliquant qu'il existait un coronavirus. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression d'être protégé parce que des tests vont être systématisés de pays venant des zones rouges. Parce qu'un pays qui se transforme en zone rouge, ça peut aller très rapidement. Et entre le moment où le pays n'est pas rouge et le moment où il devient rouge, il peut y avoir énormément de gens qui viennent en France. Et de la même façon, le test qui est pratiqué à la frontière permet de trouver le coronavirus au moins 15 jours après la contamination. Il peut y avoir des contaminations qui ne sont pas...
Oui, qui ont passé à travers les mailles du filet.
Voilà, exactement.
Bruno Cotterêss, sur cette question des mesures, est-ce qu'il y a un manque de moyens? Est-ce que vous rejoignez sur ce point Patrick Martin-Jeunier? Ou est-ce qu'il y a une réticence aussi peut-être plus psychologique ou plus politique à avoir des mesures plus drastiques?
Difficile à dire, c'est une combinaison d'un peu tout ça. On voit en tout cas qu'en France, il est décidément difficile de poser un cadre assez clair aux yeux de tous les acteurs, que ça soit les hospitaliers, les élus, les citoyens, un cadre assez clair de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire. On a hésité entre plusieurs modèles. C'est vrai, ça vient d'être souligné qu'au début de la crise, on est très concentré sur l'hôpital. Sur la tension sur l'hôpital. C'est vrai qu'aujourd'hui, les observateurs disent c'est pas là le problème en ce moment. Il n'y a pas de suroccupation à nouveau, comme on l'a connu, des lits d'hôpitaux. Il n'y a pas de tension sur l'hôpital aujourd'hui. En Mayenne, c'est beaucoup de personnes qui sont asymptomatiques. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a une difficulté à nous fixer des balises, des cadres, et qu'on sache exactement un peu où on en est. Alors c'est vrai que le modèle du confinement très étendu, très général, dans lequel nous avons été a pu peut-être donner le sentiment que le confinement nous avait mis hors de l'eau définitivement. Et il y a encore, je crois, un travail important pour les autorités d'expliquer où nous en sommes et d'expliquer très précisément, effectivement, où nous en sommes, en particulier sur la question des tests.
Oui.
Alors c'est vrai que là, sur la question des tests, on voit qu'il y a une très grande marche à franchir encore si jamais on avait une explosion et si jamais le développement était dans les clusters à nouveau exponentiels. Donc on a encore quand même des difficultés. On avait eu nos difficultés sur les masques, il ne faudrait pas qu'on découvre maintenant qu'il y a une difficulté sur les tests.
Sur ce point, Patrick Martin-Jeunier, vous vouliez réagir sur les différents modèles, on hésite?
Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai beaucoup suivi ce qui se passe en Allemagne et j'ai lu ce qui se passait à Berlin. Et à Berlin, le taux de reproduction est monté à plus de 1,90. Et je me dis, mais c'est complètement affolant. Que se passe-t-il à Berlin? Et en réalité, il n'y avait pas tellement de cas. Ça, il y avait moins de 10 cas par jour supplémentaires de coronavirus. Il faut donc être très attentif naturellement à ce taux de reproduction. Mais ça ne signifie pas ipso facto une seconde vague dans une agglomération ou ailleurs.
Mais vous avez raison de nous rappeler la prudence élémentaire. Les informés reviennent dans un instant. On fait le point sur l'actualité de ce vendredi soir à 20h20. C'est le Fil Info avec Valentine Lettès.
6 nouveaux décès du Covid-19 en 24 heures dans les hôpitaux français. Alors que les autorités craignent un regain de l'épidémie. Par précaution pour les clients et les salariés, le port du masque sera obligatoire dès lundi dans tous les supermarchés de France, annonce de la Fédération du commerce et de la distribution. En Espagne, pour éviter un nouveau confinement obligatoire, le gouvernement appelle les 4 millions d'habitants de l'agglomération de Barcelone à rester chez eux en raison d'une nouvelle résurgence de l'épidémie de Covid-19. Cinéma, théâtre, discothèque à nouveau fermés dans le pays pour au moins 2 semaines. Arriveront-ils à se mettre d'accord? Négociations difficiles à Bruxelles, où les 27 dirigeants de l'Union européenne réunis depuis ce matin et pour la première fois physiquement depuis le début de la pandémie cherchent un accord sur un plan de relance. Après 5 jours de traque dans la forêt noire allemande, la police a retrouvé l'homme lourdement armé d'Oppenau. Décrit comme un fou des armes, cet homme de 31 ans a désarmé dimanche une patrouille de policiers et volé leurs armes avant de s'enfuir. Si vous avez prévu de prendre la route demain, la carte de bison futé est rouge. Circulation très difficile annoncée dans le sens des départs en vacances. Il est conseillé de quitter les grandes villes avant 9h demain matin. Et puis son truc en plume a fait le tour de la planète. La célèbre chanteuse de music hall Zizi Jeanmaire est morte à l'âge de 96 ans.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Céline Asselot.
Et on va revenir maintenant dans les informés sur cette conférence sociale qui s'est tenue à Matignon. On n'a guère l'habitude de voir une telle unanimité à la sortie d'une rencontre entre les syndicats et le Premier ministre. On peut noter Force Ouvrière, par exemple, qui salue un véritable changement de ton. La CFDT parle de sincérité. Bref, les partenaires sociaux semblent globalement satisfaits de leur rencontre avec Jean Castex, qui leur a donné des gages et puis surtout un petit peu d'air en repoussant les sujets qui passent. Écoutez.
La réforme de l'assurance chômage est une bonne réforme et nous la mènerons à terme. Mais nous avons, parce que nous sommes pragmatiques, décidé de l'adapter aux circonstances présentes et donc d'en décaler la date d'entrée en vigueur. De la même façon, l'instauration d'un nouveau régime de retraite universel sera maintenue. Simplement, comme je l'ai indiqué aux partenaires sociaux, nous lui appliquerons une nouvelle méthode, d'abord en distinguant très clairement le caractère structurel de cette réforme qui vise à plus de justice de tous ces éléments financiers, en reprenant la concertation dans les mois à venir pour en améliorer le contenu et la lisibilité par nos concitoyens. C'est une affaire extrêmement importante.
Alors, est-ce que c'était la bonne chose à faire? Est-ce que c'était la seule chose à faire? Pascal Pogam.
Il me semble que c'était la seule chose à faire. Effectivement, dans le contexte que nous connaissons, qui pouvait sincèrement imaginer que le Premier ministre nous annonce que la réforme de l'assurance chômage, pour ne parler que d'elle, puisse, comme prévu, intervenir à la rentrée. Alors qu'on sera en pleine, je vais pas dire débâcle, on n'en est pas encore certain, mais en tout cas la crise économique, on l'apercevra clairement à la rentrée, on sera en plein débat sur le plan de relance. La priorité sera évidemment la sauvegarde de l'emploi. Qui peut imaginer un gouvernement durcissant à ce moment-là les conditions d'indemnisation du chômage et les conditions d'ouverture des droits? Enfin, c'est le bon sens, je dirais, du pragmatisme. Le Premier ministre l'a dit. S'agissant de la réforme de l'assurance chômage, j'ai même moi personnellement tendance à penser que c'est un enterrement de première classe qui ne dit pas son nom, plus qu'un report. Mais enfin, les faits nous le diront.
Pourquoi ne pas le dire alors? Pourquoi ne pas dire on laisse tomber?
Parce qu'il en va des promesses faites au début de ce quinquennat. C'était un marqueur fort du programme économique du président vis-à-vis de l'électorat le plus à droite chez les macronistes. On imagine que ce serait mal perçu. Donc à ce stade, on parle de report. Il y aura un point d'étape au 1er janvier. On verra ce qu'est la situation économique du pays à ce moment-là. Bon, je reste prudent, mais moi je ne dirais pas la même chose de la réforme des retraites. J'y viendrai peut-être. Mais sur la réforme de l'assurance chômage, il me semble que les conditions ne sont pas du tout réunies pour aller plus loin dans la réforme.
Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point, Bruno Cotterêts? Est-ce que vous parliez d'enterrement? Bruno Cotterêts, vous êtes là?
Allô? Oui. Oui, oui, oui.
Alors, report ou enterrement? Qu'en pensez-vous?
Je dirais pas enterrement, parce que en particulier sur la réforme des retraites, pour le président Macron, il y a là un symbole qui est tout à fait essentiel. Il faut quand même bien voir que si Emmanuel Macron n'allait pas jusqu'au bout de l'idée, on va dire du principe, je ne parle plus des modalités, mais là vraiment du principe, ça serait pour lui extrêmement embêtant dans la perspective de sa future candidature en 2022. Il serait peut-être le seul des présidents qui n'aurait pas été au bout de sa réforme des retraites. Les autres n'ont pas fait des réformes d'aussi grande ampleur. Les autres, c'était surtout la question de l'allongement de la durée de cotisation, mais ils y sont arrivés. Donc pour Emmanuel Macron, il y a quand même là un enjeu de symbole qui est absolument essentiel. Et on n'imagine pas, je n'imagine pas en tout cas, qu'Emmanuel Macron aujourd'hui a décidé de baisser l'étendard sur cette réforme aussi symbolique de son projet politique.
Mais pourtant, il y a la crise qui est passée par là, qui est quand même inédite aussi. C'est le seul président à avoir fait face à cette crise sanitaire qui pourrait expliquer un report, voire un abandon, Étienne Girard.
Absolument, mais il ne le fera pas pour des raisons politiques, et en particulier parce qu'il pense jouer sur ce projet sa réélection. Donc, paradoxalement, le facteur économique sur ce dossier qui a justifié au départ que ce soit dans le programme d'Emmanuel Macron passe au second plan, et c'est pour une raison presque politicienne que ce dossier ne peut être abandonné. Maintenant, sur les annonces de Jean Castex, malheureusement, je voudrais partager l'optimisme de Pascal Pogam.
Tu m'as trouvé optimiste.
Oui, je le partage pas complètement sur le sujet de l'assurance chômage, parce que ce qui a été décidé par Jean Castex, alors il s'y prend très bien. On peut pas s'y prendre mieux que Jean Castex. à cette conférence sociale. Il appelle tout le monde, il méprise personne, il a les mots qu'il faut, il prend le temps qu'il faut, sur la forme, parfait. Seulement, le report qu'il annonce, c'est un report de 4 mois. Mmh. Et le 1er janvier, si la situation est difficile le 1er septembre, pour les chômeurs, elle sera encore plus difficile oui. le 1er janvier. Il faut rappeler que c'est une réforme très très dure qui est prévue. Il faudra avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois pour toucher un centime. Sinon, on ne touche absolument rien. Et donc, cette réforme, elle est toujours à l'ordre du jour actuellement.
D'un mot, Patrick Martin-Jeuny, avant qu'on s'interrompe, justement, est-ce que c'est entendable de dire, de continuer à dire, on va le faire, mais de repousser les négociations à plus tard?
C'est difficilement entendable, car que vous commenciez au mois de septembre ou au mois de janvier, finalement, pour moi, ça ne change pas la nature du problème, soyons très
d'accord,
clairs.
Oui.
Et donc, effectivement, le secrétaire général de l'OCDE, si on prend un peu de recul, a dit, attention aux États européens, faites très attention, il y a une de graves crises sociales qui se profilent. Donc, si, sur cette crise sociale avec les centaines de milliers de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, qui vont avoir besoin d'être protégés, on remet sur le tapis cette réforme et la réforme des retraites, je ne sais pas si on va en reparler, qui au final n'a rien d'universel, excusez-moi, hein, eh bien je crois qu'on va au-devant de risques sociaux explosifs très importants.
Je vous promets qu'on en reparle dans un instant. Restez avec nous tous les quatre, Patrick Martin-Jeuny, Étienne Girard, Pascal Pogam et Bruno Cotresse. Les informés reviennent dans une poignée de minutes.
La paire.
Qu'est-ce qui... Mais ferme-toi !
Alors comme ça, vous n'avez pas envie d'entendre votre fenêtre claquer toute la journée ? Pour un été à prix doux, jusqu'au 3 août, La Paire vous offre jusqu'à moins 25% sur les fenêtres graphiques en aluminium sur mesure. Écoutez comme c'est calme.
Chérie, t'es où ?
La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
Conditions sur lapaire.fr.
France Info Météo, avec le CIC. Agir sur le terrain, près de vous, maintenant. CIC, reconstruisons dans un monde qui bouge.
La météo avec Sébastien Léas.
L'amélioration s'affirme et la journée de demain s'annonce largement ensoleillée sur la majeure partie du pays. Sur le Grand Est et la Bourgogne, le ciel sera un peu plus variable, mais les éclaircies seront belles et prédominantes. Entre la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire et les Hauts-de-France, des grisailles matinales pourront localement retarder l'arrivée du soleil. Ces nuages bas et brouillards se dissiperont plus ou moins rapidement, mais quelques bancs pourront encore localement persister sur les plages entre la Seine-Maritime et le Nord-Finistère. Sur le relief de la Corse et les Alpes du Sud. De nouvelles averses se développeront à partir de la fin de matinée. L'après-midi, ces averses pourront tourner à l'orage et le risque d'averses orageuses concernera aussi le Var demain après-midi. La hausse des températures se poursuit et les maximales repassent au-dessus des valeurs de saison. L'après-midi, le mercure sera compris entre 24 et 32 degrés. Des pointes jusqu'à 34 degrés sont attendues dans le Languedoc, alors que le long de la Manche, les températures afficheront seulement 18 à 23 degrés.
Vous écoutez France Info, il est 20h30. Avant de retrouver les informés, un point sur l'actualité de ce vendredi avec François Lepage.
6 nouveaux décès dus au coronavirus à l'hôpital en France ces dernières 24 heures. Des chiffres qui ne tiennent pas compte des EHPAD. Le nombre de patients hospitalisés en tout cas et de cas graves en réanimation continue de baisser. Mais 2 mois après le déconfinement, des signaux faibles de reprise incitent les autorités à renforcer la prévention. Ainsi, le port du masque sera obligatoire dès lundi dans les supermarchés et les grandes enseignes alimentaires. La Fédération du commerce et de la distribution l'annonce ce soir, alors que le décret d'obligation dans tous les endroits publics clos entrera en vigueur en début de semaine. La situation sanitaire en Bretagne est suivie de très près, mais n'est pas alarmante pour autant. Santé publique France se veut rassurante ce soir. La circulation du coronavirus reste faible, malgré une augmentation due à la découverte de plusieurs foyers. Le nombre de tests pourrait en être aussi une des raisons. Il a nettement augmenté, 20 000 réalisés ces 10 derniers jours. Jean Castex donne des gages aux partenaires sociaux. Le Premier ministre reporte les négociations sur les retraites, mais aussi l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage, au moins jusqu'à janvier prochain. Il entend donner la priorité à la relance et à l'emploi, une première satisfaction pour syndicats et patronats. Une prochaine conférence sur le dialogue social est prévue en octobre. 4 ans après la mort d'Adama Traoré, une marche inédite demain à Beaumont-sur-Oise, co-organisée par ses proches pour lui rendre hommage, mais aussi par des militants écologistes, partisans d'une écologie populaire aux côtés des populations en première ligne des injustices. Justice. Conséquence du taux de réussite record au bac cette année, l'afflux de lycéens, 9500 jeunes se retrouvent en attente de proposition, alors que la fin de la phase principale de Parcoursup s'achève à minuit. C'est plus que l'an dernier, ils étaient 6000. La mort de Zizi Jeanmaire, elle avait 96 ans, danseuse à la fois délurée et très chic. On se souvient de son fameux truc en plume. Elle a travaillé avec les plus grands comme Serge Gainsbourg ou encore Boris Vian. 20h32 minutes sur France Info, le retour des informés, c'est avec Céline Asselot.
20h21h, France Info, les informés, Céline Asselot.
Et toujours à mes côtés dans le studio de France Info, Étienne Girard, rédacteur en chef société à l'hebdomadaire Marianne, Pascal Pogam, directeur adjoint de la rédaction de l'Express, Patrick Martin-Jeuny, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes, on va en parler justement de l'Europe tout à l'heure, et avec nous également, via les ondes, Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Alors Jean Castex donne des gages aux partenaires sociaux, on en parlait il y a un instant, mais leur fixe aussi un calendrier serré de discussions. La méthode est-elle la bonne ? On poursuit le débat tout de suite. Alors je ne sais pas si les responsables syndicaux avaient prévu de prendre des vacances, mais leur agenda va considérablement se charger au cours des prochaines semaines avec des concertations sur le financement de la protection sociale, sur la dépendance, sur les travailleurs détachés, sur le partage de la valeur, sur la jeunesse aussi, dès la semaine prochaine. Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que le gouvernement va pouvoir tout faire, tout négocier, tout discuter, tout lancer en même temps ? Étienne Girard.
La difficulté pour Jean Castex, ce sera de pouvoir continuer à être aussi disponible et aussi respectueux de l'ensemble des partenaires sociaux, ce qui lui vaut pour l'instant son grand succès auprès de ses interlocuteurs. Effectivement, ça fait énormément de chantiers. Il devra sans doute déléguer certains chantiers à des ministres. Est-ce que ces ministres-là seront aussi attentifs, se garderont de la même façon que Jean Castex de toute arrogance ?
Vous n'en êtes pas sûr ?
Non, parce que, pourquoi je suis pas sûr ? Parce que depuis le début du quinquennat, on peut pas dire que ça a été la marque de fabrique des gouvernements et du gouvernement d'Édouard Philippe et des forces d'Emmanuel Macron. On a pêché ces trois dernières années par énormément d'arrogance vis-à-vis des partenaires sociaux qui étaient renvoyés d'ailleurs dans l'ouvrage Doctrine des conseillers d'Emmanuel Macron, Ismaël Emelien et David Amiel à l'Ancien Monde. Là, l'Ancien Monde revient, et revient en force.
Est-ce que l'Ancien Monde va pouvoir tout faire, Patrick Martin-Jeunier ?
Je ne crois pas, sauf à bâillonner l'Assemblée nationale. Je vous rappellerai que le calendrier législatif utile, c'est 15 mois finalement, hein, c'est moins de 2 ans. Donc si vous voulez aller sur tous les fronts, ça ne va pas être possible. Une réforme comme celle des retraites qui était extrêmement contestée mérite un nouveau dialogue, mérite des rencontres. Et d'ailleurs, le Premier ministre n'avait pas le choix, puisque les syndicats ont refusé purement et simplement de parler des retraites. Donc effectivement, nous sommes face à une situation sociale très importante, très critique, mais on ne va pas pouvoir mener de front toutes les réformes. Par exemple, on a parlé d'une réforme de la décentralisation. Monsieur Castex a parlé d'un droit d'expérimentation des collectivités territoriales, une loi organique. Rien que voter une loi organique, ça prend beaucoup de temps. Donc, on ne pourra pas lancer les chantiers de front. Il faudra faire des choix.
Et est-ce qu'on aura le temps de faire la réforme des retraites ? Vous en parliez tout à l'heure, Pascal Pogam. Vous n'étiez pas sûr que ce soit un enterrement cette fois ?
Non, pas sûr que ce soit un enterrement. Mais j'avoue que la lisibilité de la réforme là est quand même assez compliqué à définir. Ce qui est clair, c'est que le gouvernement désormais sépare de façon très nette la réforme structurelle et la partie financière de la réforme. Sachant que pour la partie financière de la réforme, désormais, il renvoie à une concertation en 2021, mais une concertation qui englobera non plus seulement le financement de la retraite, mais le financement de la protection sociale dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on évoquera dans cette concertation des sujets comme la dépendance, mais aussi comme la vieillesse, la maladie. Donc, vous voyez bien la complexité des discussions qui s'annoncent. Vous avez listé les innombrables chantiers sociaux qui ont été évoqués par le Premier ministre. Il faut ajouter à ça le fait que le gouvernement s'est engagé à associer les partenaires sociaux au plan de relance également. C'est-à-dire que parallèlement, à Bercy, il va y avoir des discussions avec ces mêmes acteurs. Moi, j'avoue que quand on fait la liste de tous ces chantiers, et compte tenu des enjeux, j'ai du mal à imaginer que, effectivement, on avance sur un certain nombre de points. Allez. Et si les syndicats sont tous contents en sortant de Matignon aujourd'hui, c'est bien qu'on n'a pas été
très loin dans les sujets. Il va falloir choisir. Dites-vous, Bruno Cotresse, qu'en pensez-vous et que va-t-il falloir choisir ? Quelle sera la priorité ?
Oui, je suis à l'unisson de la tonalité générale. Dès le discours de politique générale du nouveau Premier ministre, on ne pouvait qu'être surpris par la tension entre le calendrier utile, effectivement, c'est 15 mois grand maximum, hein. Et puis alors l'ampleur de ce qui a été proposé, le nombre de chantiers à ouvrir, il s'agit d'associer en tout les partenaires sociaux, les territoires, les citoyens. Et donc effectivement, il y a un peu on va dire une contradiction entre l'ampleur de cette tâche et le fait qu'elle arrive un peu tard dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. On a passé maintenant pratiquement les deux tiers du mandat d'Emmanuel Macron. Donc il y a là effectivement potentiellement à la fois une difficulté pour tout conduire de fond, une difficulté pour ne pas décevoir à la fois les partenaires sociaux, les Français. Et donc ça va être un petit peu compliqué. Et j'ai l'impression moi qu'on est plutôt sur l'idée de mettre en œuvre un certain nombre de choses, d'initier une nouvelle dimension du mode de fonctionnement du pouvoir exécutif dans sa volonté de réforme, de manière à pouvoir mieux catapulter la candidature d'Emmanuel Macron en 2022 et d'expliquer que, eh bien, il lui faudra un deuxième mandat pour aller au terme de tout ce qui a été annoncé par le nouveau Premier ministre.
Tout à l'heure, Pascal Paugam disait, finalement, si tout le monde est d'accord, c'est qu'on a parlé de rien ou de pas grand-chose. Ça va être quoi le premier écueil, le premier test, finalement, Étienne Girard?
Le consensus s'arrêtera le jour où de premières décisions fermes seront prises, notamment sur la réforme des retraites. Effectivement, là, on est au préalable. C'est l'introduction. Donc, dans la mise en bouche, donc aujourd'hui, Jean Castex a réussi son introduction. Quand il va falloir trancher, bah, oui, tout le monde ne sera pas content. Alors, ça fait une différence quand même de trancher en respectant ses interlocuteurs et trancher en ne les respectant pas. Ça fera une différence. Cela étant, quand il sera décidé que le régime universel est maintenu, en tout cas que la réforme du régime universel se fera bel et bien, la CGT, Force ouvrière, d'autres syndicats, la majorité des syndicats en réalité, seront pas contents et appelleront à manifester.
Est-ce que ça veut dire qu'on en revient encore et toujours à la réforme des retraites, l'incontournable, Patrick Martin-Genier?
Oui, moi je suis très inquiet parce que revenons un peu quelques mois avant le coronavirus, lorsque Monsieur Philippe, Édouard Philippe a fait voter sa réforme avec le 49-3, c'est-à-dire que les parlementaires n'ont pas eu le droit à la parole, ils ont été convoqués un samedi après-midi, directement dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, et le matin en Conseil des ministres, on avait décidé de passer avec le 49-3. Il n'y a pas eu de discussion parlementaire sur le fond. Et lorsque on regarde l'avis du Conseil d'État qui a été publié juste avant, le Conseil d'État a été extrêmement sévère sur cette réforme en disant, au final, elle est où la réforme des retraites universelles? Chacun va pouvoir garder un peu son régime. Alors, on y avait, évidemment, c'est symptomatique, c'est les danseurs étoiles de l'Opéra de Paris, peut-être, mais de façon plus générale, regardez les avocats. Et on se demande ce que va faire Monsieur Dupond-Moretti, d'ailleurs. Les avocats ont fait une grève, ont considérablement perturbé le fonctionnement de la justice. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, ça veut dire que si on augmentait considérablement les cotisations des avocats, la moitié des cabinets d'avocats, eh bien, pourraient fermer leurs portes. Ce qui est grave aujourd'hui, il est, me semble-t-il, de la plus grande prudence de dire, attention, on va essayer de revoir tout cela, dans la mesure où, au final, certains régimes vont pouvoir garder leurs spécificités, alors qu'on va appliquer, au final, ce qu'on appelle le régime universel des retraites aux plus fragiles, hein, les salariés et les gens qui n'ont pas, et notamment les fonctionnaires, tous les gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de se défendre. Donc il faut faire très attention et revenir. Et je dis, cette réforme n'était pas urgente, elle l'est peut-être devenue aujourd'hui, mais il faut véritablement repartir. Et ce qui m'inquiète, c'est de dire, lorsque j'entends le Premier ministre dire, on va séparer l'aspect financier et l'aspect structurel. Moi, je comprends que sur l'aspect structurel, il ne renonce absolument à rien sur le fond.
En tout cas, le Premier ministre rappelle, redit encore ce soir, hein, qu'il va prendre son temps, le moment n'était pas opportun de faire cette réforme des retraites tout de suite. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure Jean Castex, qui était l'invité du JT de France 2. Les informés reviennent dans un instant. On s'arrête le temps de faire un point sur l'actualité à 20h41. C'est avec vous François Lepage.
C'est le premier sommet sur site depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Les 27 dirigeants de l'Union sont réunis à Bruxelles pour parvenir à un accord sur un plan de relance de l'économie menacée par une récession historique. Au menu, un plan de 750 milliards d'euros. Mais les discussions s'annonce longue et difficile. Les conditions posées par les Pays-Bas et la menace d'un veto hongrois pèsent notamment sur les chances de parvenir à un accord. Les opinions divergent diamétralement, dit ce soir le Premier ministre tchèque. Le nombre de patients hospitalisés et de cas graves en réanimation continue de baisser en France, mais deux mois après le déconfinement, des signaux faibles de reprise incitent les autorités à renforcer la prévention. Le port du masque sera obligatoire dès lundi dans les supermarchés et les grandes enseignes alimentaires. Près de 4 millions d'habitants de l'agglomération de Barcelone appelés à rester chez eux pour freiner la reprise de l'épidémie et tenter d'éviter un nouveau confinement obligatoire. La deuxième ville espagnole, très prisée des touristes, fait face depuis quelques jours à un bond des cas de contamination. Quelques difficultés de circulation ce soir dans le sud-est, mais le plus gros est à venir. Bison futé, voire rouge demain, dans le sens des départs au niveau national pour le troisième week-end des vacances scolaires.
France Info. Et tout est plus clair.
20h-21h, les informés. Céline Asselot.
Allez, passons de Matignon à Bruxelles maintenant, si vous le voulez bien, où se tient pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire une réunion des 27 en présentiel, comme on dit parfois maintenant dans le monde d'après. Ce sont les 27 dirigeants de l'Union européenne qui sont en sommet depuis ce matin pour discuter de ce plan de relance, souhaité notamment par la France et l'Allemagne, 750 milliards d'euros de prêts, mais aussi de subventions. Et la signature finale est loin d'être assurée. Écoutez ce qu'en disait tout à l'heure Angela Merkel.
Il y a eu vraiment beaucoup de préparatifs et donc nous entamons ce conseil avec un grand élan. Mais je dois dire que les différences sont encore très importantes et donc je ne peux pas dire si cette fois nous parviendrons à un résultat. Ce serait souhaitable. Cependant, il faut voir la réalité en face et la nécessité de grands compromis de la part de tous, de manière à comprendre ce qui est bon pour l'Europe, ce qui est bon pour les citoyens européens au vu de cette pandémie et quelle est la réponse aux difficultés économiques que nous avons. Dans cette mesure, je m'attends à de très très difficiles négociations.
Bon, on sent pas un fol optimisme dans les propos de la chancelière allemande. Est-ce que ça veut dire que ça ne se fera pas, Pascal Pogam?
Les difficultés de des discussions étaient attendues. Au moment où l'accord franco-allemand est annoncé sur ce plan de relance à 750 milliards d'euros, peu de commentateurs imaginaient qu'un accord puisse intervenir dès la mi-juillet, dès ce premier sommet en présentiel. Et donc, ça veut dire que tout le monde sait qu'on est parti pour 48 heures, voire plus, de discussions serrées, tant les avis sont diamétralement opposés, comme le disait le président tchèque aujourd'hui. Moi, je pense que, évidemment, il vaudrait mieux pour l'Europe, pour le symbole, il vaudrait mieux qu'un accord intervienne dès ce week-end. Mais je me tourne vers vous. Hein, mais je pense aussi que si on n'arrivait pas à un compromis dès ce week-end-là, ça ne veut pas dire que tout serait perdu. Il est possible que les discussions soient scindées entre budget d'un côté et plan de relance à 750 milliards de l'autre. Si on peut rapprocher quelques avis du côté des pays frugaux, on aura déjà fait un grand pas, me semble-t-il.
Bon, Pascal Pogam se tourne vers vous.
Oui.
Patrick Martin, je
vous
dis, bon, c'est à vous.
Je ne vois pas, mais je me tourne vers vous.
C'est pas Madame
spécialiste
Soleil.
Des questions européennes. Allez-y.
Mais c'est vrai qu'il y a de graves divergences et qu'aujourd'hui il y a une différence de culture fondamentale entre les pays dits latins, mais également la France, l'Allemagne et les pays du frugo, l'Autriche, notamment le Danemark, les Pays-Bas et la Suède. Il y a des gens qui dans le Nord ne comprennent pas qu'on puisse distribuer de l'argent comme ça sans exiger un phénomène de remboursement. Donc, ils ont bien compris qu'il était de l'intérêt de tout le monde de relancer l'économie européenne qui est exsangue, mais ils n'ont pas la même culture et ils ne veulent pas. Par exemple, je lisais une interview qu'a fait récemment le chancelier autrichien Sebastian Kurz dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il disait « Je ne veux pas une Europe endettée, je ne veux pas une Europe de la dette ». Et il est diamétralement opposé à ce que pensent d'autres comme le monsieur Giuseppe Conte, qui est le président du Conseil italien, qui lui-même est allé voir Mark Rutte, le premier ministre néerlandais, pour essayer de le convaincre, mais il y a un fossé énorme sur la façon d'utiliser cet argent, d'autant qu'on est en train de nous dire que ce plan de relance, il faut relancer l'Europe, mais ce sont les générations futures qui vont rembourser, et sur 30 ans, hein, donc pendant 30 ans à partir de 2028 jusqu'en 58, et bien effectivement, pendant 30 ans, on va rembourser. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. Aujourd'hui, le compromis consisterait tout simplement à ce que les frugaux acceptent une certaine partie de dons pure et simple, mais que les pays comme la France et l'Italie acceptent également de rembourser un peu plus.
Bon, on comprend que c'est pas gagné. Bruno Cotterêts, est-ce que la France joue gros dans cette affaire sans ce plan de relance européen? Est-ce qu'elle va pouvoir financer tout simplement son propre plan de relance?
Oui, elle joue gros et notamment le chef de l'État joue même très très gros parce qu'il s'est considérablement avancé sur ce terrain dans ses déclarations en France sur ce plan franco-allemand qu'il a présenté aux Français comme pratiquement quelque chose d'acquis. Donc le chef de l'État français joue gros, la France également joue gros à la fois parce que elle a à récupérer elle aussi hein, des fonds européens, mais effectivement elle a des enjeux qui sont également des enjeux de financement de tout ceci. Et moi je lis à travers ce plan à la fois l'Europe dans ce qu'elle a de très bien et l'Europe en même temps on lui retrouve ses défauts dans cette histoire. Ce qu'elle a de très bien, bah, c'est d'un seul coup la capacité qui s'est affirmée au cours de la crise, à monter d'un cran, à monter vraiment, alors qu'on croyait la marche infranchissable, notamment du fait de la position de l'Allemagne. On voit que là, on fait quand même un progrès extrêmement important dans l'intégration européenne, au bon sens du terme. Et puis, on retrouve en même temps l'Europe avec un certain nombre de ses défauts, c'est-à-dire tout ceci se fait, on ne voit pas très très bien non plus comment les parlements nationaux sont clairement associés à toutes ces décisions, comment les citoyens également sont associés à toutes ces décisions. Donc on retrouve un petit peu l'Europe dans ce qu'elle a de très bien et de formidable, et puis aussi dans un certain nombre de ces difficultés un peu récurrentes. On va encore offrir aux Européens le spectacle d'un sommet qui se termine tard dans la nuit, avec des compromis, etc. Donc des enjeux très importants, en tout cas pour la France, ça c'est certain.
Vous dites finalement, Étienne Girard, êtes-vous d'accord qu'il y a des enjeux économiques mais aussi des risques politiques pour Emmanuel Macron notamment?
Cet argent est très important pour la relance économique du pays, mais pour Macron, c'est vrai que c'est avant tout un sujet politique. De la même façon que la réforme des retraites, il joue une partie de sa réélection sur sa capacité à montrer qu'il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Macron s'est présenté comme un grand Européen. Il allait relancer la construction européenne. Grand discours de la Sorbonne. Il a annoncé, Bruno Cotterêts l'a rappelé, cet accord, ce plan massif, inédit. On l'a martelé, Bruno Le Maire l'a martelé. Il a annoncé ça comme fait. C'était une formalité. Et là, on se rend compte que
la formalité est plus compliquée qu'au prévu.
Oui, c'est tout à fait compliqué. Donc, si l'accord ne se faisait pas finalement, ce serait un immense échec. C'est difficile à imaginer. Ce qu'on peut imaginer, c'est que on réussisse à avoir un accord parce que politiquement, ça arrangerait non seulement Emmanuel Macron, mais aussi Angela Merkel, quand même les deux pays moteurs de l'Union européenne, mais qu'il y ait toute une série de facilités qui soient accordées aux pays frugaux, qui, on le sent bien ces dernières semaines, et c'est depuis même ces derniers jours, ça s'est intensifié, qui demandent une série de... On est dans une salle d'enchères. On est dans la surenchère de « je veux bien signer si on me donne ceci ou cela ». Et il existe tout un phénomène de rabais au sein de l'Union européenne sur des pays qui, depuis des années, ça se sait très peu, participent moins au budget de l'Union européenne. Les Pays-Bas, d'ailleurs, les frugaux, il n'y a pas que les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède, en font partie. Ce qui est envisageable, à mon sens, c'est qu'on décide que ces rabais subsisteront, voire seront augmentés.
Alors on va continuer à parler de cette salle d'enchères européenne que vous évoquiez, Étienne Girard, dans un instant. À 20h50, on fait d'abord le point sur l'actualité. C'est le Fil Info de François Lepage.
Jean Castex l'annonce ce soir sur France 2, le calendrier de la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% des Français les plus riches est pour l'heure maintenu, une suppression prévue en 2023. On le sait, Emmanuel Macron avait évoqué le 14 juillet un possible report. Son déplacement n'avait pas été annoncé sur son agenda officiel. Le Premier ministre s'est rendu cet après-midi dans une plateforme du Secours Populaire à Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val d'Oise pour échanger avec responsables, bénévoles et bénéficiaires d'une aide alimentaire. La fréquentation des distributions a augmenté de 40% dans ce centre avec la crise sanitaire. Le port du masque sera obligatoire dès lundi dans les supermarchés et grandes enseignes alimentaires. La Fédération du commerce et de la distribution l'annonce ce soir alors que le décret rendant obligatoire ce port du masque dans tous les endroits publics clos entrera en vigueur en début de semaine. L'application Stop Covid, téléchargée 2 300 000 fois depuis son lancement, cela correspond à 3% seulement de la population, encore bien insuffisant pour déterminer si l'utilisateur a été en contact avec un malade, 20% de la population doit la télécharger, d'après les experts. Elles entendent empêcher la tenue d'un nouveau rassemblement sauvage ce week-end dans le centre de la France. 8 préfectures, dont les 6 de la région centre, interdisent un possible Technival. Des interdictions qui n'avaient pas empêché le rassemblement organisé dans la Nièvre lors du pont du 14 juillet.
France Info. Et tout est plus clair.
20h-21h, les informés, Céline Asselot.
Le sommet européen au cœur du débat ce soir dans les informés. L'Europe qui montre là son meilleur et son pire visage, disait tout à l'heure Bruno Cotterêts. Est-ce qu'elle joue pas aussi une part de sa crédibilité, l'Europe, Patrick Martin-Genier, parce qu'elle a été divisée. On l'a vu depuis le début de la crise sanitaire. Là, faut montrer visage uni, enfin.
Oui, je crois que l'Europe a été très très divisée. Elle a perdu déjà une partie de sa crédibilité. Il faut rendre hommage quand même à la Commission européenne avec Madame von der Leyen qui a essayé de sauver l'honneur de l'Europe, je dirais. Mais au niveau des conseils des chefs d'État et de gouvernement, c'est une catastrophe. On le voit bien depuis le début. Ils ne sont pas d'accord. Mais d'ailleurs, ils n'étaient pas d'accord avant même la crise sanitaire. Ils n'étaient pas d'accord dès le mois de février. Ils étaient en désaccord sur le cadre financier pluriannuel. Vous savez, ce budget qui doit durer de 2021 à 2027. Ils étaient en désaccord. Et depuis la crise, encore plus en désaccord sur les modalités de cette aide. Par conséquent, l'Europe joue sa crédibilité, je dirais même qu'elle joue sa survie. Et qu'aujourd'hui, Angela Merkel, la chancelière allemande, met tout son poids dans la bataille pour essayer d'arracher un accord. Elle est présidente en exercice du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, le président Charles Michel également. Donc on essaye effectivement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux fondamentaux. Si l'Europe n'y arrive pas, on est dans la voie de l'explosion, de la désintégration de l'Europe. Donc il faut trouver une solution. Et c'est pourquoi je pense qu'on va essayer de trouver une solution, même si par ailleurs, chacun va faire des compromis sur ce point, de façon à ce que chacun des chefs de gouvernement et d'État revienne chez soi en disant, voyez, j'ai réussi, c'est grâce à moi que nous avons obtenu quelque chose, notamment Emmanuel Macron qui est à la manœuvre. Et vous savez que dans cet immense bâtiment du Conseil européen, eh bien toutes les délégations se rencontrent et négocient tard dans la nuit, voire le week-end. Donc on espère qu'on aura quelque chose, mais ce n'est pas certain au vu des déclarations du Premier ministre tchèque.
Il faut absolument, c'est ce que vous dites en tout cas, que l'Europe montre qu'elle joue un jeu majeur dans cette crise majeure, Pascal Pogam.
Oui, c'est clair qu'un échec ajouterait une crise politique majeure à une crise économique inédite, et de ce point de vue-là, tout porte à croire qu'un compromis finira par se dessiner. Si ça n'est pas ce week-end, ça sera peut-être un peu plus tard. Je voudrais ajouter une chose à ce que disait Étienne tout à l'heure sur les gestes qui pourraient être accordés aux pays frugaux pour les amener vers un compromis. À l'inverse, ce qui se joue dans la discussion ces jours-ci, c'est aussi des contraintes supplémentaires qui pourraient être imposées aux pays du Sud. Et quand je parle des pays du Sud, j'englobe la France, bien entendu. Contraintes supplémentaires sur l'attribution des fonds dont nous parlons et de ce plan de relance. Aujourd'hui, le plan de relance en question, il est censé bénéficier aux pays pour venir aux pays qui en bénéficieront pour financer le plan de relance des dépenses d'avenir et pour cibler des populations les plus impactées par la crise. On peut tout à fait imaginer, et c'est des demandes très claires qui sont formulées par les Pays-Bas par exemple, qu'on impose aux pays bénéficiaires des réformes structurelles, marché du travail, retraite, et on revient sur le débat que nous avions précédemment. Voilà pourquoi un pays comme la France se retrouve en situation très compliquée vis-à-vis de ses partenaires européens.
Mais est-ce que politiquement, Bruno Cotterêts, je vous pose la question, est-ce que politiquement la France peut accepter des contraintes venues de Bruxelles, des contreparties ?
Ah, je dirais que politiquement, il reviendra à Emmanuel Macron de l'expliquer évidemment aux Français. Mais effectivement, c'est le cœur du problème du rapport des Français à l'intégration européenne. Vous savez, nous en France, on a toujours cette vision de ce qu'on appelle la projection, l'Europe de projection. C'est-à-dire, on voit l'Europe comme une gigantesque France et on voudrait que tous les autres pays européens voient l'Europe comme nous. On a une grande difficulté de ce point de vue-là en France à penser la pluralité des regards que portent les Européens et leurs gouvernements sur l'intégration européenne et sur l'Europe. Donc il est tout à fait essentiel de ce point de vue-là que notre chef d'État explique aux Français, si jamais il devait y avoir effectivement des concessions ou des compensations, qu'elles soient explicites ou implicites, effectivement réformes structurelles, de l'expliquer. Alors là, on voit qu'on a un cœur de problème très important, puisque les Français perçoivent très souvent, ont perçu en tout cas pendant longtemps, l'Europe sous le biais de ses contraintes. La crise que nous venons de traverser, on a expliqué aux Français que les contraintes budgétaires, le fameux 3%, ne faisaient plus référence. Donc vous voyez, on a tout un ensemble de problèmes pour expliquer clairement aux opinions publiques quel est aujourd'hui le rôle de l'Europe dans la conduite de l'action publique, en France en particulier.
L'Europe, une grande France dont on ne veut pas trop voir les différences. Est-ce que c'est un petit peu ça, Étienne Girard ?
Ben non, parce que le problème, c'est que ce n'est pas une grande France. Moi, je soutiens l'idée qu'il n'y a pas d'Union européenne, que ce qui est en train de se passer montre qu'il n'y a pas d'Union européenne au sens littéral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentiment européen, il n'y a pas de sentiment de partager un destin commun. Les Néerlandais ne veulent pas payer pour les Italiens ne veulent pas être sous la tutelle des Néerlandais. C'est bien la preuve qu'il y a quelque chose de cassé entre ces peuples et qu'il n'y a pas cette solidarité qui doit soutenir, là, dans de telles circonstances, qui devrait prévaloir sur toutes les autres considérations. C'est pour ça que je partage totalement l'idée que s'il n'y a pas d'accord, si en définitive il n'y a pas d'accord, ce sera l'éclatement à moyen terme de l'Union européenne. Et de la même façon, si un accord conditionné à des réformes structurelles, ce sera aussi l'éclatement de l'Union européenne, parce que dans certains pays, et notamment en Italie, où on a quand même un Premier ministre qui est eurosceptique, eh bien, l'opinion publique votera massivement aux prochaines élections pour un projet politique de sortie de l'Union européenne.
C'est cassé, le mot est très fort.
Patrick oui, tout risque d'être cassé d'un seul coup en effet, sachant que chaque État menace de mettre son veto à ce budget parce qu'il faudra décider à l'unanimité. Et voilà que l'on met sur la table maintenant la notion d'État de droit, la Hongrie, la Pologne, qui comme vous savez ont pris des mesures très restrictives en matière de liberté, d'atteinte à l'indépendance des juges et de la presse des journalistes. Et M. Orban, Premier ministre hongrois, a menacé de mettre son veto à ce cadre financier si jamais on venait l'embêter sur le terrain des droits de l'homme.
Un mot de la fin, le mot de la fin,
oui,
Pascal Pogam. Après,
je nous entends souligner ce qui ne va pas, ce qui grince, ce qui risque de conduire à un échec, parce que nous sommes d'affreux journalistes français qui plus est, donc nous râlons toujours. Il faudrait quand même souligner, et là Étienne, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, on parle quand même d'un plan de relance de 750 milliards d'euros.
Il est pas
d'un historique. Historique, on parle d'un endettement en commun des Européens. C'est une première historique, il ne faut pas l'oublier.
Bon, en tout cas, on comprend que c'est un enjeu majeur dont on pourrait continuer à discuter. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Étienne Girard, rédacteur en chef société à l'hebdomadaire Marianne, Pascal Pogam, directeur adjoint à la rédaction de l'Express, Patrick Martin-Jeuny, enseignant à Sciences Po, spécialiste, on l'a entendu, des questions européennes, et Bruno Cotterêts, en ligne avec nous également, politologue, chercheur au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Merci à tous les quatre d'avoir participé aux informés. Restez avec nous sur France Info.